tout de suite, on dose les raquettes.
One, bonsoir. Two, three.
Je suis Pascal Rambert, j'écris du théâtre et je le mets en scène. Voilà.
Bonsoir, je suis Nicolas Truon, je suis journaliste, responsable des pages idées, débats du Monde. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre en scène la vie des idées. Ce que nous essayons de faire avec Nicolas Bouchaud et Judith Henry dans la pièce Interview.
Bonsoir, je suis Mathilde Sarel et je suis Ping sur France Culture.
Bonsoir, je suis Martin Kénéen et je suis Pong ce soir. Pascal Rambert, donc vous êtes auteur, metteur en scène, réalisateur et chorégraphe. Vous incarnez, vous soutenez les artistes vivants pendant 10 ans à la tête du théâtre de Gennevilliers, le T2G, et aujourd'hui en qualité d'artiste associé au Théâtre des Bouffes du Nord et de premier de cordée avec la troupe de la Comédie Française, pour laquelle vous avez donc écrit et mettez en scène Une vie à découvrir au Théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 2 juillet. Et quant à vous, Nicolas Truong, vous l'avez dit, journaliste mais aussi essayiste, vous êtes aussi metteur en scène d'un théâtre des idées avec le spectacle La Vie sur Terre ou le projet Luciole, et aujourd'hui avec Interview conçu avec les acteurs Judith Henry et Nicolas Bouchaud à découvrir au Montfort Théâtre à Paris jusqu'au 17 juin. Et ce soir, c'est donc deux animateurs radio qui s'entretiennent avec des artistes, qui parlent de journalistes, qui parlent à des artistes, qui parlent.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
Oh, dis donc, et ça, c'est l'antenne satellite.
Putain, fais gaffe. C'est un immobile de Kundelich, c'est hyper fragile, ça.
Et ça, c'est.
Putain, attention, touche pas. C'est un monochrome de White Man. Oh. Une fortune, ça.
Ah oui. Ah oui, c'est un tableau, quoi. Ouais. Le mec, il a peint l'Alaska, il est un peu.
1995, avec l'immobile de Kundelich et le monochrome de White Man, la bande d'humoristes Les Inconnus pose dans cette scène de leur film Les Trois Frères une matrice de la vanne sur l'art contemporain. Écho populaire à la pièce Art, avec des guillemets qui ont toute leur importance, écrite par Yasmina Reza et présentée pour la première fois en 1994. Signée par le metteur en scène Patrice Quebra, joué par Pierre Arditi, Fabrice Lucchini et Pierre Vanek, Art, c'est aujourd'hui la pièce française la plus jouée dans le monde, traduite dans 37 langues, avec peut-être ce fond de moquerie d'un certain snobisme français, mais surtout la moquerie d'un snobisme plus large, et on n'ose pas dire universel quand même, celui du milieu des galeries, un dermato qui se pique d'art pour acheter une œuvre quasi monochrome de White Man, une fortune et ses deux amis qui sont divisés sur la question. Voilà pour le cœur de la pièce Art, avec des guillemets de Yasmina Reza, une critique un peu facile de l'art qui a fait grincer à l'époque. Et bien 23 ans plus tard, la relecture qu'en fait le collectif Tégestan actuellement au Théâtre de la Bastille à Paris donne enfin peut-être la bonne idée sur cette pièce pour dépasser les clivages. Oui, on en profite pour se moquer de ceux qui achètent de l'art, pour s'acheter un peu de divin, pour s'extraire de leurs conditions de mortels. Mais ça n'est pas la discussion sur l'art qui prévaut, mais le dialogue entre les trois amis. Certes, cet achat ne fait pas l'unanimité. Tégestan remet la dimension sarotienne de la pièce au centre. On entend pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute, ce débat sur ce petit mot, cette petite condescendance qui avait été jouée d'ailleurs à l'époque par Pierre Arditi, notamment à travers cette phrase « Ça a commencé le jour où tu as dit le mot déconstruction sans humour ». Je rappelle que c'est au théâtre donc de la Bastille à Paris jusqu'au 25 juin. Art, avec les guillemets, avec les doigts, de Yasmina Reza par Tégestan. Une question pour vous, Pascal Rambert, dans une autre pièce, Une vie, écrite spécialement pour les 6 acteurs de la troupe du Français. C'est joué au Vieux Colombier en ce moment à Paris. La pièce se déroule dans un studio de radio, donc c'est l'émission monographique d'un grand artiste de renommée internationale dont on ne connaîtra pas le nom. Il fait du figuratif, à l'époque où tout le monde fait du conceptuel, donc il y a cette petite moquerie sur l'art en filigrane dans le texte, et surtout c'est inspiré de voix off de Denis Podalydès, un livre qui mêle ses souvenirs et ses archives de fausses interviews radio incroyables qu'il faisait donc avec son frère. On avait passé un bout lorsque Denis Podalydès est venu ici dans Ping Pong. Est-ce que au fond c'est une moquerie à la fois de l'interview et de cette définition de l'art qu'on n'arrive décidément pas à trouver, où il n'y a aucune dimension moqueuse dans Une vie, Pascal Rambert?
Non, non, ce n'est pas une moquerie. C'est, voilà, j'ai essayé de faire, je ne sais pas, cette chose compliquée, de donner l'impression de ce que peut être la vie d'un homme, quoi. Alors, avec les choses qui sont ses propres ridicules et en même temps sa beauté. Mais sur la question conceptuelle, moi je fais plutôt des choses qui sont effectivement généralement qualifiées comme plutôt conceptuelles, mais comme c'est pas du tout mon histoire et que c'est pas du tout personnellement que je me suis portraituré dans cet artiste, je l'ai mis à distance avec cette chose-là. Et puis en plus, je parlais avec un critique que j'aime bien, qui écrit bien, qui s'appelle Patrick Sourd, aux Inrecuptibles, et il mettait le doigt sur des choses que, en me disant, mais en fait, peut-être t'es, sans le savoir, t'es un figuratif, et peut-être c'est pas faux non plus des fois.
Figuratif dans le théâtre.
Oui, parce qu'en fait, figuratif, c'est quoi? C'est l'amour des corps. Et moi, j'ai un amour des corps et des corps des actrices et des corps des acteurs et de ce que ces corps-là peuvent produire au niveau du langage que j'articule et que j'écris. Donc, je me moque pas, non, du tout. Et en tout cas, j'ai une assez grande, je dirais pas admiration, mais en tout cas, je veux dire, ça va avec les journalistes et les intervieweurs. C'est vrai parce que.
Jusqu'ici.
Non, mais c'est vrai parce que j'aime bien les gens qui posent des questions. Je trouve que c'est bien de poser des questions aux autres. C'est une façon de curiosité, donc moi, tout va bien avec ça.
Alors, Mathilde évoquait le fait que cette pièce Art de Yasmina Reza est peut-être la pièce française la plus jouée à travers le monde. Il faut rappeler que votre Clôture de l'amour, Pascal Rambert, a été traduite, elle, je crois, en 23 langues et aussi une des pièces les plus jouées dans le monde. Donc, il y a peut-être une rivalité de ce point de vue-là. Mais ce que Mathilde rappelait, Nicolas Truong, c'est que cette pièce de Yasmina Reza, Art, à la fois évoque le désir, quand on s'achète une œuvre, de s'extraire de sa condition de mortel. C'est sans doute ce qui vous a mené à devenir metteur en scène depuis plusieurs spectacles, vous donc le journaliste et essayiste, mais est-ce que c'est pas aussi, au-delà donc d'échapper à votre condition de mortel, le fait de vous engager dans l'aventure collective? Il y a la fraternité dans la mise en scène de Tejestan, de Art. Je crois que Pascal Rambert aime beaucoup la douleur qu'il ressent à éprouver le collectif du théâtre quand ses écrits, ses textes passent sur scène. Vous aussi, c'était vous le journaliste solitaire, c'était aussi vous lancer dans cette aventure fraternelle?
Me lancer dans cette aventure fraternelle, c'est certain, mais pas si solitaire que ça, parce qu'un journal, en l'occurrence celui pour lequel je travaille, c'est une aventure collective. Je travaille dans un service que je dirige, j'espère pas du tout en solitaire ni de manière autoritaire, c'est plutôt collégial, c'est plutôt la discussion permanente, c'est plutôt du questionnement aussi, beaucoup, chaque jour, savoir qu'est-ce qu'on fait comme page, comment on tente de donner un peu de profondeur à l'actualité en faisant appel à des artistes, à des intellectuels, des entretiens, des analyses, des entretiens croisés. Mais ça a été en effet, par contre, quelque chose pour moi de mettre aussi les idées. C'est une autre manière de mettre en fait en scène les idées. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que dans un journal, dans une revue, on met aussi en scène. Il y a une dramaturgie en fait dans un journal. On commence par quelque chose, en l'occurrence chez nous par l'international. On termine plutôt par les idées, non pas parce qu'on les met derrière, mais parce que d'une certaine façon, ça veut dire qu'il y a le temps du recul, le temps de l'actualité, puis le temps du recul. D'une certaine manière, moi, je voulais mettre aussi les idées à l'épreuve des corps, parce que je pense qu'il n'y a pas d'idées sans
figuratif, vous aussi.
C'est ça, ni de corps sans idée. Et du coup, se lancer aussi, montrer le premier spectacle, c'était Projet Luciole, ce qu'on voulait faire avec Nicolas Bouchou et Judith Henry, c'était voir ce que ça faisait de mettre de la philosophie contemporaine sur scène. Qu'est-ce que ça faisait de le dire? Est-ce que ça révélait quelque chose? Au contraire, est-ce que ça invalidait une pensée? Est-ce qu'on pouvait du coup sourire de la... Est-ce qu'on pouvait parler de la déconstruction sans sourire ou pas? C'était ça. Et là, pour le coup, effectivement, c'est encore d'une certaine manière une façon de tenter de réfléchir, certes un peu plus là au métier de journaliste, de questionner les questionneurs et de montrer que d'une certaine manière, l'interview, même si elle se passe comme ici autour de micros avec des corps qui, pour l'instant, ça ne fait que commencer, ne bougent pas énormément.
Ils sont habillés, peut-être ça bouge aussi.
C'est ça, c'est du mouvement. C'est aussi du mouvement, parce qu'il y a des mouvements de pensée. Donc du coup, c'est vrai qu'on essaie de traduire ça aussi dans la pièce, parce qu'il y a des façons très soit condescendante ou au contraire très empathique, très bienveillante, très parfois c'est l'interrogatoire de police, parfois c'est le divan, et tout ça c'est des positions, et donc c'est une forme aussi d'art, c'est un art qu'on pourrait rapprocher de la conduite ou de la danse, et de montrer que dans cette chose très simple qu'est l'interview, qui semble banale au fond, c'est pas pour rien qu'on met ce texte de Michel Foucault au début du spectacle, Le Beau Danger, c'est pas très grave une interview ratée. En tant que journaliste, peut-être, en tant qu'intervieweur, sans doute, Pascal pourrait nous en parler, mais c'est, on a tous soit réussi, raté des interviews. C'est pas plus grave que ça, après tout, si c'est raté. Mais en même temps, c'est un beau danger, voilà. Et ce danger amusant, le danger amusant des entretiens, peut nous emmener en même temps très, très loin. C'est pour ça qu'effectivement, ça peut servir à raconter une vie. J'ai le souvenir de Régis Debray, qui interviewe le critique de cinéma Serge Danet. Et au fond, il lui pose pas Pas tant de questions que ça. Et c'est d'ailleurs, en fait, Nicolas Bouchon, on a fait un spectacle qui s'appelle La loi du marcheur. Et en fait, peut-être que c'est ça le summum de l'interview, c'est de créer les conditions d'un monologue. Il se passe pas grand chose. Et puis, mais en même temps, dans les questions, et puis quelque chose se passe. Dernière interview de Pasolini aussi, hein, avec son ami journaliste. Et bien là, c'est l'interview qui déborde du cadre, en fait. C'est l'interview fleuve, d'une certaine manière, en ce sens-là. Et là, quelque chose se passe, quelque chose se construit avec. Et oui, il y a quelque chose de fraternel entre l'interviewé, l'intervieweur aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte aussi d'analogie entre le théâtre et l'interview, puisque c'est finalement un dialogue avec toujours un public, ou un auditeur, ou un lecteur, ou un quatrième mur, comme on dit au théâtre.
Ici, il n'y a pas de tentation de monologue, puisque le projet, c'est l'interview croisée. Donc, on peut faire du monologue croisé avec vous, Nicolas Truong et Pascal Rambert, puisqu'on parle de pensée sur scène et de Michel Foucault. Est-ce que, d'une certaine manière, une vie, cette pièce, Pascal Rambert? Et attention, je dis, est-ce que, d'une certaine manière, donc déjà, je vous propose une analyse. Donc, quelque part, je vous enferme un petit peu. Donc, vous avez le droit de sortir de ma question.
Ouais.
Mais
tout
il s'agit
n'est pas Florence Aubenas.
D'une mise à jour de la pensée aussi contemporaine. On retrouve dans l'écriture de cette pièce des choses, notamment sur le sexe. Par exemple, on pense au corps utopique de Foucault. Jouir, c'est la suspension de la peur de la mort. Qu'est-ce que faire l'amour sinon se débarrasser de soi? On entend vos lectures aussi dans cette pièce, Pascal Rambert, ou ce qui vous a nourri dans vos pensées ces dernières années.
Oui, bien sûr, certainement. Mais moi, je viens aussi du domaine de la philosophie, en fait, au tout début. Et en fait, j'ai une joie, un plaisir à lire Wittgenstein de façon répétitive comme ça. C'est comme voilà, des gens vont faire vont jouer au golf. Moi, je lis ça. Et donc, forcément, ces lectures, elles influent, mais d'autres choses aussi, mais pas nécessairement Foucault, non. Pas nécessairement Foucault.
Il y a Guy Debord, Ne travaillez jamais, qu'on entend assez clairement.
Oui. Bah oui, ça, on le reconnaît tout de suite, oui.
C'est très intéressant ce que dit Pascal Rambert, parce que la question de la philosophie est de la question et du questionnement. Il y a deux types
de la philosophie, finalement.
De manière à l'envisager. Dire que d'une certaine manière, l'interview, c'est la prolongation de la philosophie, puisqu'après tout, on pourrait dire que l'interview, en tout cas, enfin, la philosophie en Occident, elle a démarré avec quelqu'un qui posait des questions.
Dans
les rues d'Athènes.
On continue, quoi.
Et puis, il y a aussi ceux qui pensent tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'il faut, au contraire, ne pas répondre aux questions. Quelqu'un comme Deleuze pense ça. Il dit qu'au fond, dans ses dialogues avec Claire Parnet, ça démarre par un...
C'est l'abécédaire.
Dans l'abécédaire, il y a Q comme question, où il dit précisément ce qui consiste, le problème des questions, c'est qu'il faut en sortir. Donc, il dit finalement, le philosophe, lui, répondre à des questions, c'est binaire. Quand on doit répondre oui, non, pour qui avez-vous voté, qu'est-ce que vous allez faire comme prochain spectacle, etc., etc. Et donc, c'est soit du passé, du bilan récapitulatif, voilà, sa vie, on raconte sa vie, ou soit de l'avenir. Donc c'est, et lui dit que l'interview idéale, quelque part, enfin, où ça se passe pas comme ça, ça devrait être presque le tracé d'un devenir, et qu'il faudrait presque des interviews comme Bob Dylan faisait des cours, comme Dylan faisait des chansons. Enfin, il dit qu'il aimerait faire des cours comme Dylan faisait des chansons, et qu'il faudrait peut-être faire des dialogues comme ça, qui soient précisément, qui aillent ailleurs, qui soient un peu des interviews fleuves de ce type-là. Et donc, c'est intéressant parce que, lui pense précisément qu'il faut fuir la question, qu'il faut fuir ça, parce que l'artiste, comme le philosophe, l'artiste et surtout le philosophe, doit se poser son propre questionnement, doit fabriquer des problèmes et non pas répondre à des questions. Donc c'est intéressant parce que dans la philosophie, il y a un peu ces deux choses-là. Il y a vraiment les questions et il y a aussi du questionnement. Et pour certains philosophes, il faut précisément répondre aux questions, mais un peu différemment. C'est pour ça que dans la pièce, on a mis cette interview avec Michel Foucault, donnée au Monde, en 1980. C'est à peu près mon homologue de l'époque qui va voir Michel Foucault, qui lui demande donc une interview. Et Foucault dit « d'accord, mais à une seule condition, c'est que l'interview soit anonyme ». Donc moi, j'imagine la tête de Christian de la Campagne, en l'occurrence, qui revient à la rédaction du Monde et qui dit « voilà, écoutez, Foucault, qui est au sommet de sa gloire, quand même, dans ces années-là, veut bien donner une interview au Monde, mais à condition que ça soit anonyme ». Et l'interview se fait, et elle paraît, ça s'intitule « Entretien avec le philosophe masqué », qu'on retrouve d'ailleurs dans les dits et écrits. Et l'interview passe comme ça, et d'ailleurs, le secret était assez bien gardé jusqu'à sa mort. Et la première question, c'est « pourquoi vous avez choisi l'anonymat ?» Et Foucault répond « bah, par nostalgie du temps où, au fond, on s'intéressait vraiment à ce que j'avais à dire ». et que le nom est une facilité, qu'il faudrait même imaginer une année sans nom d'auteur. Et les critiques auraient affaire avec une production entièrement anonyme.
Mais alors à propos de répondre ou pas aux questions, ce que vous évoquez d'un point de vue philosophique, Nicolas Truong, est-ce qu'on peut pas dire que vous vous emparez aussi de cette question-là, à votre façon, Pascal Rambert, dans votre spectacle Une vie, où il est question à un moment du mal qui cherche toujours des formes nouvelles et qui les trouve et qui les met en application. Oui. Donc si on vous suit, il faudrait ne pas trouver pour éviter que le mal n'entre en application, n'entre en action.
Non, mais pour rebondir sur ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, le personnage que joue, Podalides, ne répond absolument pas.
L'artiste interviewé.
Voilà, l'artiste. Jamais. Il répond toujours de biais, toujours à côté ou pas.
Et, mais vous êtes en train de faire la même chose.
Oui, souvent, parce qu'en fait...
Et admirablement.
Non, mais je veux dire que il y a un rapport comme ça de liberté que moi j'aime bien. Et d'ailleurs, quand je travaille avec les acteurs, c'est le même processus. C'est-à-dire que c'est une façon de poser des questions à souvent à des acteurs qui répondent pas du tout par la raison, mais qui peuvent répondre en effet par le corps, par un geste, la parole, une façon de se tenir, etc. Et tout ça pour moi est de l'ordre du langage avec lequel j'ai affaire tous les jours, en répétition tous les jours, où que je sois, soit en français, soit dans les autres pays où je travaille. Bon, mais donc c'est quelque chose qui pour moi est plus riche simplement que répondre par oui ou par non, et même répondre à votre question, parce que je fais beaucoup de gestes là à l'instant.
Mais justement, il y a un langage en fait, effectivement, du corps même dans tout ce qu'on fait, et notamment dans l'interview. Et on le voit, mais même à travers la
interview.
Dans la façon dont vous asseyez, notamment l'intervieweur caricatural, les assises qu'il a dans vos pièces respectives, Nicolas Truong et Pascal Rambert, on le voit bras croisés, content de lui, sautillant sur son fessier.
Oui, c'est ça. Il y a toute une grammaire du corps, en règle générale, et dans l'interview, puisqu'en fait, tout se passe, on va dire, par la parole. Et des signes infimes peuvent permettre de dire quelque chose. Mais on le voit même dans des interviews célébrissimes et très populaires. On a parlé bien sûr de Foucault, de Deleuze.
Il faudrait parler de Marguerite Duras, en fait.
Voilà.
Dans la pièce. De
voilà.
Nicolas
Truong. Je l'ai pas vu, mais je sais que en commençant à travailler sur Une vie, je disais aux acteurs du français qu'en fait de là où je partais, c'était ce moment génial. Et je me souviens plus maintenant si c'est sur un cercle des minuit ou si c'est à la radio, mais c'est une interview de, je crois, Laura Adler avec Marguerite Duras, et ça commence. Mais je veux même pas savoir, voilà, je veux pas aller rechercher Alina, etc. Je veux garder ce souvenir merveilleux de tout d'un coup une question posée et un immense silence, quoi. Et en fait, à partir de ce silence-là, on peut commencer à élaborer, en l'occurrence, là, moi, j'ai fait Une vie, mais je veux dire, c'est sans faire des choses un peu évidentes, oui, la radio c'est aussi du silence, c'est vrai que de partir de cet acte fondateur, de ne pas répondre et de laisser, comme je suis en train de le faire maintenant, quelque chose voilà, advenir, et dans l'esprit de celui qui écoute, c'est bien d'avoir ça par moment à la radio.
C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, ça parle tout le temps et on n'entend pas grand-chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière... Et pour revenir là pour le coup à Deleuze, il disait aussi cette chose à mon avis importante, c'est qu'il disait que les forces de répression aujourd'hui n'empêchent pas dans les pays démocratiques qui sont les nôtres, n'empêchent pas les gens de parler, elles les forcent au contraire à s'exprimer, et qu'il faudrait précisément ménager des vacuoles de solitude et de silence que peut être un studio justement, à partir desquels on aurait enfin quelque chose à dire, et que d'une certaine manière, d'où effectivement l'importance aussi bien sûr du silence dans la question de l'entretien. De...
Non, mais c'est la fonction de l'art quand même, c'est-à-dire que dans l'art, autant que faire se peut. Enfin, je pense aux grands artistes, hein, que j'admire. Si je pense, je sais pas, à Romeo Castellucci, par exemple, on n'est pas dans le bavardage. On est exactement à l'endroit d'une chose qui se déploie à la fois visuellement, au niveau de la pensée, etc. Je trouve que l'art est là pour non pas se taire, mais en tout cas parler autrement et faire passer. Voilà, une énergie de façon différente qu'en effet. Et c'était d'ailleurs très bien qu'on soit là pour parler de ça maintenant. Donc. C'est assez bien organisé, la ville.
L'art et l'art de l'interview. Questionner la question, c'est ce soir avec vous, Pascal Rambert et Nicolas Truong, dans Ping Pong.
Je regarde un chien comme ça qui se lèche le ventre et je me vois. Il n'y a plus d'humains.
Non.
Il y en a eu pourtant, et beaucoup.
Oui.
Il n'y en a plus.
Non, on ne sait pas où ils sont. Si, ils doivent être... ils sont bien quelque part. Il faudrait retourner voir les premières images. En même temps, retourner voir les premières images.
Vous parlez d'images ?
Oui, je fais des images. Ce sont des images. On fait tous des images.
Enfin, tout le monde ne fait pas des images comme...
Si.
Bien. Et donc c'est...
Oui, on fait des images. D'autres se racontent des histoires. Vous savez, tous ces gens qui tiennent des journaux intimes... Ils se racontent des histoires à eux-mêmes, ils écrivent pour eux leur petite histoire, et après ils relisent comme ça, enfin ils se relisent. C'est dur de se voir. Donc, ceux qui se racontent des histoires, et ceux qui font des images. Chacun
c'est
ça.
C'est amusant pour préparer l'émission. J'ai lu que...
Ah non, ça, il faut arrêter ça tout de suite. Toutes ces références, vous avez dit un jour que... Vous vous rendez compte ? Imaginez quelqu'un qui s'approche de vous dans la rue en vous pointant du doigt, qui dit « Tu as dit ça le 17 juillet à 13h, et puis tu as dit ça le mardi 8 janvier à tel endroit. » Non, non, il ne faut porter aucun crédit. Je n'ai rien dit, je ne lis pas non plus.
Vous ne lisez pas ce qu'on écrit sur vous ?
Non, oui, c'est tragique. Ça vous fait rire ?
Oui. Vous voulez dire que...
C'est tragique.
Bien. Vous ne retournez pas dans le passé. Pas de journal intime, pas de lecture vous concernant, pas d'apitoiement, rien.
Rien.
C'est tragique, comme vous dites.
En même temps, parfois, je regarde un chien comme ça qui se lèche le ventre et je me vois.
Musique ?
Oui, non, c'est tragique,
ouais.
Et ça fait rire. Une vie, le nouveau spectacle de Pascal Rambert, que vous mettez en scène, dont vous êtes l'auteur et le scénographe, avec la troupe de la Comédie Française, on entend des Denis Podalydès, il y a Cécile Brune, Alexandre Pavlov, Hervé Pierre, Pierre-Louis Calixte, Jennifer Decker, c'est à découvrir jusqu'au 2 janvier au Théâtre du Vieux Colombier à Paris. On le disait, on l'entend là aussi dans cet extrait du spectacle, le théâtre, ce sont des textes, ce sont des corps, et puis ce sont des images. Et puisqu'on est dans un studio qui est assez différent du studio que vous mettez en scène, Pascal Rambert, sur la scène du Vieux Colombier, ce studio tout blanc et fort bellement designé, est-ce que vous nous diriez un mot, puisqu'il s'agit d'être dans le présent, de notre studio, le studio 108 de la Maison de la Radio, nous sommes en direct là, et de votre regard de scénographe pour le coup.
Il est exactement comme tout ce que je déteste. Non, mais oui, parce que c'est obligation comme ça, comme il y a dans les théâtres, de tout peindre en noir, enfin c'est horrible quoi. Moi j'ai l'habitude de travailler dans des studios blancs parce que le blanc ça permet de découper les corps des danseurs. Quand je travaille dans le domaine chorégraphique, je travaille avec des danseurs, on voit tout à fait la ligne du corps sur du blanc, c'est pour ça qu'on travaille sur des tapis de danse, etc. Et là c'est, voilà, mais en même temps il y a quelque chose de tendre aussi parce qu'il y a des sortes de revêtements comme ça pour que le son soit absorbé. C'est un petit peu, mais c'est beau aussi.
Un petit côté grotte.
Un petit côté grotte, ouais. Et je sais pas si on est filmé.
Non.
Non, non, on peut filmer,
non.
Mais.
Non, bah c'est bien. J'avais bien aimé l'autre jour quand il s'est énervé, l'acteur.
Vous parlez d'une émission que vous avez entendue ici.
Non, pas du tout.
Vincent Lindon.
Oui,
Vincent Lindon qui est d'ailleurs dans le spectacle de Nicolas.
Voilà, et Vincent Lindon qui. Ben oui, parce que c'est beau la radio. Moi, j'adore la radio et comme beaucoup de gens et cette manie sans être réactionnaire, quoi, de vouloir que tout soit vu tout le temps pour faire du buzz le lendemain, etc. C'est beau d'écouter la radio les yeux fermés ou en travaillant.
Et de pas savoir qui
d'imaginer
parle.
D'imaginer la tête qu'ont les gens. Enfin, je sais pas si on a évidemment 3 grammes d'imagination, on peut travailler. Quand c'est littéral, c'est littéral.
Voilà. Donc votre spectacle, c'est aussi un spectacle qui s'écoute les yeux fermés ?
Ça pourrait, parce qu'en fait, c'est quelque chose de... J'ai fait tellement de spectacles dans le noir que j'aurais pu faire celui-ci aussi dans le noir. Non, mais c'est comme c'est ce que disait aussi Nicolas. C'est-à-dire qu'en fait, Nicolas Trong, là... C'est aussi quelque chose qui part d'une situation réelle ici, comme nous tous autour de cette table, et qui fait que, je sais pas, Nicolas vient d'évoquer Marguerite Duras ou Foucault, Imaginons à l'instant où il en parle, que la porte s'ouvre, qu'il pénètre à l'intérieur, qu'il vienne s'asseoir et qu'on commence. Voilà, bah, c'est ça la pièce que j'ai écrite. C'est-à-dire
oui, un grand critique d'art voilà, qui reçoit pour une émission monographique un artiste de renommée internationale.
La puissance d'évocation, en fait. La puissance d'évocation. Enfin, je sais pas, moi, quand j'écoute de la radio, par exemple, je peux tout à fait faire pénétrer là où je me trouve les personnes qui sont en train de parler dans mon propre espace, voire dans mon lit. Et alors ?
Ça vient d'une expérience radio, cette pièce, Une vie Pascal Rambert, puisque cette idée de ne pas savoir exactement qui est cet artiste, joué par Denis Podalydès, de ne pas avoir de précision, on l'imagine effectivement au seuil de sa vie, après une carrière internationale, refusant de peindre des corps, tendant les plantes, etc. Voilà. Donc, c'est l'expérience de la radio qui remonte avec cet artiste, et en même temps, quand vous parlez de ses incarnations, c'est l'interview ultime aussi qui est proposée sur scène. C'est le rêve absolu de toute interview. La mère, la muse, le frère, le meilleur ami marchand d'art et l'artiste enfant viennent témoigner et éclairer l'œuvre de l'artiste. C'est mieux que tout ce qu'on a comme littérature critique sur son travail. C'est mieux que toutes les questions qu'on peut poser. Une vie, ça raconte. Est-ce que ça raconte aussi l'interview ultime?
Oui, c'est joli. J'avais pas. C'est vrai, c'est très beau ça. L'interview ultime. Nicolas présente une pièce, c'est pas l'interview. Là, c'est l'interview ultime. C'est très beau. Ça me plaît beaucoup. Mais c'est aussi l'impossibilité à cerner quoi les êtres humains. Je veux dire que je vis avec une intervieweur, une journaliste qui fait le même métier que vous, et je vois aussi dans son travail à la fois le désir perpétuel de cerner la vie d'une personne et en même temps l'échec. Systématique, je veux dire, on peut pas. Quelqu'un en face de nous est plus grand que tout ce qu'on peut projeter sur lui ou même tout ce qu'on peut savoir. Et je trouvais ça intéressant devant un artiste, manifestement, en effet, qui est assez sans qu'on sache qui c'est, enfin, qui soit pas nommé comme voilà, sinon ça fermerait un peu la chose. Bah, finalement, qu'on sait pas qui sont les gens. J'aime cette idée qu'on peut en effet s'éteindre devant quelqu'un sans savoir avec qui on a vécu toute sa vie. Il y a quelque chose du mystère épais de l'être humain qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et en tant que du fait que j'écris, écrivant du théâtre, je suis confronté systématiquement à ce mystère-là, avec les acteurs ou les performeurs que j'ai en face de moi. Mais et cette forme que j'essaie de donner à cette à ce trou que nous sommes en fait, à cette impossibilité à dire. Si je dois me définir au début de l'émission, comme je suis un mauvais élève, j'ai parlé sur le son qui a commencé en disant mon nom, mais parce que j'ai mal compris, mais comment se définir, quoi? Comment dire? Est-ce que c'est juste dire Pascal Rambert, Nicolas Truong? Est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on est essentiellement la verbalisation sociale du mot qui représente notre métier? Enfin bon, vous savez tout ça. Donc c'est, je trouve ça intéressant de s'autoriser à dire que les êtres sont difficilement cernables et que vouloir le tenter fait partie d'une question intéressante à vivre à travers notre travail. Pardon.
C'est pour ça que cette question est importante, parce que c'est vrai que si la philosophie s'est beaucoup questionnée sur le rapport à l'autre, on va dire que l'interview, elle travaille la question de l'entre, de ce qui se passe entre deux personnes, principalement. On peut être à quatre comme aujourd'hui, mais c'est une question de l'entre. Et du coup, par rapport à ce que vient de dire Pascal Rambert, je trouve que la réflexion menée par Deleuze est particulièrement intéressante, parce qu'il dit précisément cela. C'est-à-dire qu'il dit au fond, la question qu'il refuse lui, qu'est-ce que tu deviens, est particulièrement stupide. Puisque précisément, en fait, dit-il, à mesure que quelqu'un devient, ce qu'il devient change autant que lui-même. Donc d'une certaine manière,
on est ce vers quoi on
va. Il y a un devenir, effectivement, il y a quelque chose à un devenir. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans l'interview, c'est que, et c'est ce qui a au départ été choquant quand elle est apparue, l'interview en France, on pourrait même la dater, dans le matin, pas le matin de Paris, 3 juillet 1884, j'ai regardé ça. Il y a très peu de choses en fait sur l'interview, il y a très peu de choses, c'est dans un article assez savant de Jean-Marc Seyant, je crois, dans un gros volume qui s'appelle La civilisation du journal, mais il n'y a pas beaucoup de livres en fait sur la question. Et on voit tout de suite quand même que tout est là, c'est-à-dire que il y a des ministres, des chefs des armées qui au fond trouvent étrange cet exercice où on demande aux gens de où ils doivent répondre d'une certaine manière aussi de leurs actes. Donc il y a quelque chose de très démocratique en fait, dans l'interview du départ. Et puis aussi quelque chose, les artistes sont très méfiants, certains artistes sont très méfiants, c'est quoi ? On va, comme le dit Vincent Ladon dans la pièce interview, parce que lui se rebelle à un moment donné, il est en train de présenter Pater, je crois qu'il est en,
ah oui,
il est avec un journaliste d'Allociné.
Extraordinaire.
Il dit, écoutez, moi j'en ai marre de faire de répondre aux interviews, de parler des films que je fais, écoutez, ouais. Je m'en fous de moi, ça n'a aucun intérêt, et puis si vous avez une idée, une image du film que je, pourquoi il faudrait que j'explique, et ça part là-dessus, etc. Et donc d'une certaine façon, il y a, comment dire, voilà, dans l'interview, quelque chose qui peut se jouer, et ce qui se joue finalement dans l'interview de Lindon, même s'il pète les plombs, comme on dit communément, il y a quelque chose qui se joue précisément. C'est-à-dire que là, à la fois, il a l'impression de s'appartenir vraiment, de se reposer justement, lui, ses propres questionnements, puisqu'il se met à parler de ce que c'est que, bah, précisément, de parler des films, de qu'est-ce que c'est que de donner des choses au public, et du coup, il se réapproprie quelque chose là, avec un double jeu. On ne sait pas s'il aurait fait exactement la même chose dans d'autres émissions, c'est des circonstances particulières, cette Allociné, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a un peu cette idée que on peut, dans une interview, et la dernière interview, l'ultime interview dont vous parliez à propos de sa pièce, ça fait penser évidemment à la dernière interview de Pasolini. Il y a quelque chose comme ça, comme un chant du cygne, comme ces œuvres parfois de la dernière fois, les derniers quatuors de Beethoven, Brel qui chante l'album des Marquises. Dans les dernières interviews, quand parfois on le sait, parfois on le sait pas, il y a quelque chose qui se joue là, me semble-t-il, de très beau, à deux voix. C'est pour ça que les voix enchevêtrées de Così fan tutte, moi, me parlent. C'est pour ça que dans notre pièce, il y a un duo, qui est là pour le coup beaucoup plus joyeux et entraînant
et
swingant, voilà, puisque c'est Dean Martin et Nancy Sinatra. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et essayer de trouver cet accord, c'est tout l'art de certains intervieweurs, et c'est toute la grâce de certaines interviews que Marguerite Duras d'ailleurs a mené elle-même. Elle a mené des interviews magnifiques avec que ça soit un enfant de 7 ans avec une directrice de prison, une interview lors de laquelle elle ose poser la question est-ce que vous avez pas envie de temps en temps d'ouvrir la porte, quoi. Et donc voilà, c'est ce que peut permettre cet art tout simple, banal, anodin de l'interview, et je peux comprendre que si parce qu'elle en vit en plus avec une intervieweuse, que ça soit quelque chose de l'ordre d'une sorte d'énigme, parce que on dessine aussi sa propre biographie à travers les autres et la façon dont on les questionne. On pourrait presque au fond dire qu'un intervieweur, sa biographie, à moins qu'il ait sa biographie, admettons qu'il n'ait rien écrit sur lui quoi, on pourrait le voir qu'il est, dessiner la personne qu'il est ou qu'elle est à travers les personnes qu'elle a interviewées et la façon dont elle les interviewe, les mots qui reviennent, voilà, la relation.
Mais à cet égard, Pascal Rambert, pour prolonger la perche que vous tendez à l'instant, Pascal Rambert, il y a l'idée que dans une interview, on cherche la vérité, à cerner ce trou de l'énigme de l'individu, comme vous le disiez. Et vous avez l'audace, la témérité, l'outrecuidance d'intituler ce spectacle « Une vie ». Et donc on s'attend à quelque chose, soit de Maupassant, soit de biographique, d'autobiographique de votre part. Et on peut savoir dans votre autobiographie, je crois que vous êtes né à Nice, que vos parents tenaient dans votre enfance une station-service. Et là, on est dans la grande bourgeoisie, rue de Lille, à Paris.
Oui, c'est parce que c'est très éloigné de moi, cette pièce. Elle est tout à fait. C'est pour ça, des fois, quand je lis que c'est un autoportrait, c'est une erreur profonde. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de. Je trouve que la rue de Lille est un endroit absolument effrayant. Donc, j'aime bien m'attaquer à des trucs qui sont pas du tout moi, justement. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on disait là sur l'interview, c'est-à-dire que il y a une chose merveilleuse quand même. C'est la façon dont Pina Bausch a travaillé toute sa vie et qui a nourri ma génération.
Chorégraphe, donc pas intervieweuse.
Voilà, poser des questions. Moi, quand je travaille avec les acteurs, je les vois une fois, je parle jamais de leur intimité, mais je leur pose des questions. J'adore poser des questions. Et ça, je le tiens, je me suis autorisé à le faire en voyant comment, et notamment ce documentaire merveilleux de Chantal Akerman sur Pina Bausch, le seul valable, pour vraiment voir comment était le travail, de sa manière de poser des questions systématiquement. Et donc, les performeurs, les danseurs avec elle, répondaient ou ne répondaient pas tout de suite, répondaient 4 jours après, par exemple. Et c'est très beau. Je veux dire que moi, je vis dans un temps infini. Donc, si je réponds pas à une question à vous, Martin, tout de suite, peut-être qu'on la poursuivra
dans quatre jours.
Non, mais c'est ça. Dire le réel, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pas juste être étriqué dans ces petits trucs. Donc ça, c'est fluide. C'est un temps qui avance comme ça, dans lequel, enfin, personnellement, je vis avec beaucoup de plaisir.
C'est ce que fait.
C'est ce que fait Max Frisch, qui est le livre de la question qui est présenté dans Interview, Nicolas Truong.
Alors Max Frisch, c'est encore autre chose. Je voulais juste dire que c'est ce que fait Pasolini avec son ami Furioso Colombo, dans mon souvenir, un journaliste, dans cette interview, à la fin, cette dernière interview, l'ultima intervista de Pasolini, il dit en 75, avant, puisqu'il va mourir après, quelques heures après, sur une plage d'Ostie, assassiné. Il lui dit exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils conçoivent l'entretien ensemble, et puis Pasolini, on n'aura jamais la réponse, mais il dit, bon, pour l'instant, oui, on pourrait l'appeler, nous sommes tous en danger. Mais on se revoit, et j'y réfléchis à tout ça, et on reprendra. On reprendra, et l'interview ne reprend pas. Max Frisch, c'est autre chose pour le coup, parce que autant là, Pasolini et Colombo, c'est vraiment une sorte de duo. Max Frisch, puisque l'interview, c'est aussi la question, bien évidemment, c'est celui qui a porté l'art de la question au plus haut, peut-être au sommet, puisqu'en fait, il a composé un livre qui est entièrement composé de questions sur les femmes, sur l'argent, sur l'amour, sur la vie.
Aimez-vous?
Pardon?
Aimez-vous?
Aimez-vous quelqu'un?
Aimez-vous quelqu'un?
Oui.
Et qu'est-ce qui vous mène à cette conclusion?
Voilà, c'est ça, ce type de questionnement, à la fois très amusant et comment dire...
Et profond.
Et profond, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque question, au fond, qui vont vraiment de quand vous rencontrez quelqu'un en slip de bain et que vous ne connaissez rien de ses conditions sociales de vie, à quoi reconnaissez-vous quand même qu'il est riche? Ça va à d'autres questions comme celle sur l'amour, effectivement. Qu'est-ce qui vous mène à cette conclusion? Est-ce que vous avez de l'humour? Est-ce que vous avez de l'amour quand vous êtes seul? Ça serait aussi joli, mais lui, c'est est-ce que vous avez de l'humour quand vous êtes seul? Bref, beaucoup de choses comme ça qui sont au fond des questions qui n'appellent pas, notamment dans le spectacle, de réponses véritablement, mais qui mettent au travail. En fait, c'est vrai que poser des questions, des suites de questions, des séries de questions, en fait, sur scène, ça produit un effet. Alors, parfois, certains types de questions peuvent évidemment amener des réponses. Et là, au contraire, ça met un peu au travail. Ça rentre un peu dans l'intimité d'une certaine manière. Et l'idée, c'est de faire en sorte précisément qu'on chemine un peu après et non pas répondre tout de suite. Ça, c'est très beau d'une certaine manière. C'est une sorte c'est l'interview à écho diffracté, quoi. Ça revient. Imaginez, par exemple, vous me posez une question à Pascal Rambert et à moi-même, et que la question arrive la réponse arrive 2 ans après, d'une certaine façon. Donc là, c'est les questions que pose Frisch, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est des questions, on pourrait répondre oui tout de suite, aimez-vous quelqu'un, oui. Et qu'est-ce qui vous mène à cette conclusion-là? On peut mettre un peu plus de temps, éventuellement, mais on pourrait mettre une vie à répondre.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'une vie, ça serait un peu comme ça, une sorte d'entretien infini ou d'interview infinie avec
comme
le réel, tu vois, un truc qui fait qu'avec le réel, systématiquement vivre, c'est être dans un rapport de questions avec le réel qu'on en a face à soi. C'est quelque chose d'extrêmement meuble, ce rapport à la vie comme ça, et au fait de moi, j'ai l'impression assez de vivre effectivement dans une sorte d'entretien infini avec le réel, tout le temps, sans cesse. Pas simplement ici, pas simplement en interview, dans le travail, dans la relation amoureuse, en mangeant, en faisant l'amour, en travaillant, en voyageant. C'est un rapport de question avec le réel.
1, 2, 3. Des questions auxquelles on répondra plus tard, des questions auxquelles on ne répondra pas, mais qui nous auront aidé à nous poser des questions, justement. C'est l'enjeu ce soir de cette interview qui regarde l'interview au carré, l'interview au cube, à la puissance que vous le souhaiterez, avec Nicolas Truong et Pascal Rambert. On entendra un petit peu de cette interview, justement, sur scène au Théâtre du Montfort en ce moment.
Ping pong. La culture sans limite.
Mais à présent, un peu de reggae, non pas en mémoire de l'interview posthume de Bob Marley parue dans VSD 30 ans après sa mort, où l'on apprenait notamment que pour comprendre le sens du mot rastafarisme, il fallait écouter James Brown. Mais du reggae en l'honneur des précurseurs et dit-on des inventeurs de ce terme en 1960, Toots and the Maytals, car si dans Chronique d'un été et donc dans le spectacle de Nicolas Truong Interview on pose cette question « Êtes-vous heureux ?», eh bien les Maytals, ces Jamaïcains en rythme rebondissant qui font lever les genoux et donnent envie de faire des cocottes à la guitare ou de chanter tous en chœur, eh bien eux semblent bien aussi à la recherche du bonheur. Vénérable et toujours vert, Pressure Drop, enregistré en 1968 par The Maytals, qui seront en concert lors du festival Solidays vendredi 23 juin à l'Hippodrome de Longchamp et qui sont d'ores et déjà dans le guide musique de notre partenaire Le Figaroscope qui, c'est pour moi important de le souligner, met en vedette cette semaine ce diable qui passe ses journées au paradis, Phil Collins.
Ping pong. La culture sans limite.
Edgar Morin. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce film ?
Chronique d'un été. C'est 1960. C'est une recherche qui concerne la vie réelle.
Et quand vous faites ce film, c'est quoi pour vous la fonction de l'interview ?
C'est un moyen de connaissance. Au début, les gens sont très contents. Puis alors, le temps passe. Enfin, si vous voulez, la première grande expérience, c'est qu'un entretien doit avoir du temps. Parce qu'au début, tout le monde veut avoir la bella figura. Tout le monde veut se présenter sous son aspect officiel. On tient toujours à présenter un visage qui est celui qu'on croit fait pour les autres, un masque. Après, ça peut être une demi-heure, une heure, commencent à ressortir les obsessions profondes, les thèmes de la mélancolie, de la solitude, de la tristesse.
Un entretien réussi, c'est un entretien qui a duré.
Il faut du temps, hein, sinon ça ne va pas. Il faut du temps, de la confiance et un élément presque magique pour que ressorte finalement le fond de la personne. Les personnages de Chronique d'un été, au début, c'était des partenaires que je voyais dans le rôle professionnel et puis le début de confiance qui commençait à manifester me donnait un sentiment d'amitié, d'affection pour eux. Autrement dit, un entretien ne peut jamais être froid. Si on veut parler à quelqu'un pour qu'il dise son sentiment vrai, un sentiment doit être chaud.
Et comment créer ce climat ?
Par exemple, pour Chronique d'en été, on a fait des entretiens en dehors de tout studio de cinéma. Ça se passait dans l'appartement de Marceline Loridan, dans sa salle à manger. autour d'un repas, des vins, tout ce qui favorise la convivialité, la commensalité, la combibandalité, donc le climat.
Interview, la MC 93 au Montfort Théâtre. C'est jusqu'au 17 juin conçu et mis en scène par Nicolas Truong, interprété sur scène par Judith Henry et Nicolas Bouchot pour refaire le dispositif d'interview. D'ailleurs, il y a toujours un dispositif dans l'interview. Vous avez entendu Nicolas Bouchot incarner la parole d'Edgar Morin. En fait, vous êtes allé recueillir des paroles de grands intervieweurs pour élucider ce grand mystère du climat, de la question de comment fait-on, auprès aussi de Claudine Nougaret et Raymond Pardon, de Florence Aubenas, de Jean Asfeld. En un mot, là, ils reviennent sur Chronique d'un été, en 1960, sur le climat, justement, qu'on installe pour obtenir les réponses. En quoi c'est une pièce qui nous montre aussi qu'il ne faut jamais commencer sa question en ayant une réponse?
Parce que c'est la seule manière d'être vraiment dans l'autre, effectivement. C'est-à-dire, c'est pour ça que, à un moment donné, Florence Aubenas, mais Marguerite Duras, je le pensais un petit peu, mais c'est que ceux qui sont vraiment curieux d'avoir les réponses, c'est les enfants. Eux, ils posent vraiment les questions pour avoir les réponses. Parfois, on peut poser des questions et puis être perdu dans la question suivante, ou au contraire, on cherche quelque chose. Au fond, on ne cherche pas, on a déjà trouvé. On cherche dans l'interview la confirmation de ce qu'on pense. Qu'on soit journaliste d'idées, journaliste culturel ou grand reporter. Et c'est effectivement quelqu'un, comme dit Jean Asfeld, qui dit pas « est-ce que ?», mais qui dit « n'est-ce pas que ?» N'est-ce pas que c'est ça que vous avez voulu faire, Pascal Rambert, dans votre pièce ?
Ah,
ou n'est-ce pas que c'est terrible ce qui vous arrive, madame, etc. Donc, ce qui fait, au fond, les réponses en même temps que les questions, parce qu'il les a déjà dans sa tête. Alors que l'interview, en tout cas, la beauté de l'interview, ou l'intérêt de l'interview, tout simplement, ça peut être tout simplement de se laisser surprendre, soit par l'événement, la personne. Pensez que la personne en face, même si on a l'impression de tout savoir sur elle, ou qu'on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui compte, eh bien, elle est intéressante. Et qu'au fond, il y a un trésor, quoi. Et si on a été intéressé par, moi, ça m'a beaucoup intéressé d'aller voir Jean Asfeld, Florence Aubenas, Raymond Depardon, évidemment Edgar Morin, parce que aussi c'est des gens qui font un travail. L'interview, j'en fais tout le temps, mais je fais pas du tout les mêmes types d'interviews. Moi, j'ai jamais fait des interviews en Bosnie, au Rwanda, avec des électeurs du Front National comme Florence Aubenas, avec des gens dans des asiles psychiatriques ou dans des institutions judiciaires comme ou avec des paysans. Comme Raymond Depardon et Claudine Nougaret. Mais ce qui nous intéressait, c'était précisément d'aller questionner ces questionneurs, interroger ces interrogateurs sur savoir comment ils font, comment ils se présentent, comment ils se préparent. Et là, j'ai l'impression que d'une certaine façon, il y avait quelque chose qui se délivrait, en fait. Parce qu'ils ne parlent presque jamais de ça. Jean Asfeld a de nombreuses fois parlé du Rwanda, de son expérience, de ce qu'il a fait, la façon dont il a précisément la parole recueillie. Mais comment on parle et comment au tueur on doit plutôt dire vous ou il plutôt que de dire tu, alors qu'avec les rescapés c'est différent, parce que là il a compris qu'il fallait, à partir du moment où c'est une question de langage, ils se mettaient à raconter leur histoire. Sinon, si c'était je et toi, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là quand tu descendais au stade de foot avec ta machette, etc., ils ne répondaient pas. Ils disaient non, moi j'y étais pas. Ou... Mais par contre, s'ils leur posaient la question, mais avec le il, le on, là ils se mettaient à parler. Et tout ça était très intéressant. Et du coup, on a eu l'impression, nous, d'avoir aussi un trésor. C'est-à-dire, ce qu'ils nous racontaient était vraiment très intéressant parce que à la fois, c'était, on va dire, tout simplement de la, comment dire, l'antichambre, les coulisses, la cuisine, mais pas simplement. C'était aussi la façon dont on faisait parler les gens aujourd'hui. Et que chacun, que ça soit Edgar Morin pour Chronique d'un été, Claudine Nougaret, Raymond Depardon, Aubenas, Asfeld, ils ont une éthique au fond de la discussion. On va dire ça comme ça. Et que, précisément, qui n'est pas très commune aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à Chronique d'un été, parce que ce film, on l'écoute, c'est une sorte de parole, de discours frais, comme dit Raymond Depardon, ce qu'il dit, en fait, il y a un discours frais. Il dit, parce que finalement, quand on raconte quelque chose, c'est pareil pour un spectacle, hein, d'ailleurs, sans doute, pour la première fois, ou quand on raconte, on dit qu'on a eu un malaise, on le raconte une fois, deux fois, trois fois, on le raconte 15 fois, Et puis au bout de la 15e fois, quoi, il y a quelque chose qui se perd. Et donc il dit qu'il y a un discours frais, quoi. C'est comme le lait frais, ça tient 24 heures. Et donc là, ce qui est très beau dans ce film Chronique d'un été, c'est que ce lait frais, il est toujours frais. Et on a voulu poser la question à Edgar Morin, savoir effectivement, puisque Jean Rouch n'était plus là, savoir comment ils avaient fait, comment ils s'y étaient pris, tout simplement, pour recueillir cette parole, au fond, très, très libre, très vive.
Alors, il y a ce lait frais de Chronique d'un été, et puis vous le disiez, Nicolas Truong, il y a la présence de Jean Hatzfeld et son art de l'interview et d'interroger singulièrement la violence, en particulier donc au Rwanda, la violence subie par les victimes et celle des bourreaux. J'en viens à la question de la violence, parce qu'à un moment, il y a cette phrase dans votre spectacle, Pascal Rambert, Une vie, donc jusqu'au 2 juillet, au Théâtre du Vieux Colombier, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, où vous faites dire à votre héros, Denis Podalydès, votre artiste interview, l'art, c'est réveiller la violence en nous. Est-ce que vous avez le sentiment que vous qui écoutez la radio, qui lisez certainement la presse, vous trouvez suffisamment les intervieweurs en train de débusquer, voire de réveiller la violence chez leur interlocuteur?
Pour être tout à fait franc...
C'est le moment de devenir violent pour
oui.
me donner raison.
Non. En même temps, la violence est partout, c'est ce que dit aussi la
presse. Non, mais
du coup, c'est pour ça qu'on peint des plantes.
Non, oui, mais non, oui, c'est pardon, un peu plus. Oui, non, mais non, j'ai pas l'impression que dans le domaine sonore de la question du journalisme, je pourrais pas te citer un exemple tout de suite de où j'aurais senti quelqu'un débusquant un autre. Je pense qu'on reste quand même assez dans un rapport assez convenu. Et ma foi, voilà, chacun fait ce qu'il peut, quoi, pour essayer de vivre, hein, et pas mourir et perdre la face devant les autres, soit à la télévision, soit en radio. Donc, écoutons ça. Une fois de plus, moi, je pense que c'est l'endroit de l'art. C'est pour ça qu'on paye très cher, en fait, des pièces pour payer, je sais pas, pour aller à l'opéra ou. On va voir ça. On va voir ce que l'on ne s'autorise pas, on va voir ce que l'on ne s'accorde pas dans le quotidien, et on va vivre ces choses-là. On va vivre ces choses-là depuis Échille, voilà. Donc depuis Échille, on paie notre écho à cet endroit-là de notre rapport au monde, et ce sont les artistes qui sont là pour s'en occuper, me semble-t-il.
Nicolas Truong.
Donc les intervieweurs ratent le coche systématiquement s'ils n'ont pas droit à la violence, sauf parfois peut-être avec Lou Reed.
Faut se lever, hein, comme l'intervieweur dans Une vie.
Oui, la violence ou le fait de débusquer, c'est arrivé quand même dans l'histoire tout court, et l'histoire de l'interview en particulier. Je pense à cette interview très longue en plusieurs séquences qu'a menée David Frost avec Richard Nixon après le Watergate. C'est très intéressant parce que c'est un journaliste animateur qui repère, qui voit le Watergate et puis Nixon partir de la Maison Blanche, mais jamais, il ne s'était jamais expliqué véritablement. Et il va essayer de le convaincre de répondre à une interview, et ça a donné lieu d'ailleurs à un film qui a été oscarisé plusieurs fois, etc. Et on voit un moment quand même, un moment, alors que c'est comme un match presque d'une certaine façon, mais c'est autre chose qu'un match, c'est quand même, ou même, c'est pas autre chose qu'un match, mais un match de tennis un peu long, quoi. Vraiment le 5-7 sur terre battue à Roland-Garros.
Éreintant.
Je sais pas, moi, Borg-McEnroe, quoi. Et à la fin.
Pascal Rambert, que de souvenirs.
Non, c'est il y a longtemps. Oui.
Et à la fin, quand même, à un moment donné, Nixon lâche, oui, j'ai trahi l'Amérique. Et ça, ça peut arriver. L'interview qui débute, quelque chose qui se révèle, quelque chose qui effectivement qui arrive comme ça, comme si la personne arrivait au bout, lui, Nixon, il fallait qu'il le dise.
Je pense que, pardon de te couper, mais je pense que par exemple Alan Weinstein sur cette station le faisait très bien. Enfin, je veux dire, écoutez Alan Weinstein quand il travaillait encore sur France Culture, je trouve qu'il arrivait à un endroit de faire dire des choses inattendues. Souvent, je me suis surpris à me dire « Ah tiens, quelque chose a été dit là, ce soir. »
Ping-pong. C'est presque fini. S'est-il dit des choses ? On va voir ça.
C'est l'interview à écho diffracté, quoi.
Et c'est très beau.
Et surtout, le philosophe doit fabriquer des problèmes et non pas répondre à des questions.
C'est assez bien organisé, la ville.
Alors pour répondre à ces questions, pour sortir ou pour entrer avec de nouvelles questions, point d'autre solution que d'aller au théâtre, découvrir donc Une vie de Pascal Rambert, mise en scène et scénographie Pascal Rambert, avec la troupe de la Comédie Française, à découvrir donc jusqu'au 2 juillet au théâtre du Vieux Colombier à Paris. Et il faut aussi aller au Montfort Théâtre jusqu'au 17 juin pour le spectacle Interview, conçu et mis en scène par Nicolas Truong.
Il n'y a plus de questions parce que les réponses sont formatées. Voilà l'une des phrases de votre pièce, Nicolas Truong, Interview. Vous étiez à la fois déformaté, je l'espère, nous aussi, dans la question. Le ping-pong est un climat radiophonique qui se crée en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction Aïssatou Ndoye, Jeanne Léo, Céam Boutata et Anna Baron. À la réalisation Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Élise Leu et Bruno Gagnère-Fontanil.
Demain, dans Ping-pong, du cinéma, mais lui aussi diffracté avec Sonia Kronlund pour son film Nothing Wood et Vincent Macaigne. Bum!